Chapitre 5e. Le soir même, César, ayant trouvé un prétexte pour laisser ses hôtes souper seuls, sortira avec sa sœur dans leur appartement, où la conversation suivante s'engagea entre eux. « Concevez-vous quelque chose, ma chère Théodora, au mystère qui règne ici? Des cadeaux, des lettres, des avis qui semblent tomber du ciel? Sommes-nous le jouet d'une intrigue ?»«
Je ne sais que répondre, » dit la jeune femme. « Je serais presque tentée de croire au merveilleux. »
« Vous, Théodora, ferez-vous céder votre raison aux niaiseries allemandes des bonnes gens qui nous entourent ?»«
Ce qu'il y a de plus clair dans tout ceci, » dit la comtesse, « c'est que vous êtes en butte à de sourdes inimitiés et desservies auprès d'Antonia. Cet Ariel qui nous combat est venu bien mal à propos. »«
J'y songe, Théodora. Si le prétendu génie n'était que la volonté agissante du jeune baron de Lüdebourg, si ce Ludwig voulait me disputer Antonia... »
« C'est possible. À notre rencontre dans l'hôtellerie des rois mages, j'ai parfaitement remarqué le trouble du baron. Mais dites-moi, César, pour avoir poussé si loin les choses, êtes-vous sûr que la fin de l'entreprise répond dignement à vos efforts ?»«
Si j'en suis sûr. Rappelez-vous les indications fournies par le manuscrit qui resta chez vous après la mort de votre patito, de ce Ladislas Bornard, qui expia si rudement le sort de vous avoir trahi.
Silence.
Rassurez-vous. » Le manuscrit, disais-je, contient les indications les plus précises sur le trésor déposé dans la tour de l'Ouest par Sigismond II, l'un des ancêtres du comte à l'époque où il partit pour la croisade.
Cependant, mon frère, s'il était vrai qu'un trésor considérable fut enfoui dans cette tour, à une place désignée par le manuscrit, comment le comte n'aurait-il pas eu l'idée de faire pratiquer des fouilles ?
Cela s'explique aisément. Dans ce livre, consacré à de tout autres sujets que le temps a rongé, la note dont je parle ne se trouve qu'en quelques lignes. Elle a pu échapper à l'attention des lecteurs, en supposant que le livre en ait jamais eu. Il faut croire que la famille des Kinitz n'en connaissait pas le prix, puisque ce volume était entre les mains d'un simple étudiant, de ce Ladislas.
De grâce, mon frère, ne prononcez pas ce nom.
Pardonne-moi, chère Théodora.
Mais, reprit-elle, encore une objection. Si le mariage accompli, le trésor ne se retrouvait pas, que ferions-nous? Car nous ne pouvons nous dissimuler que nous n'avons guère laissé que des dettes en Italie.
Je suis homme à précaution, et cette nuit, j'irai m'assurer par moi-même.
Il s'arrêta, respirant à peine.
N'entends-tu pas? Dit-il à demi-voix.
Qu'est-ce donc?
Du bruit.
Où?
De ce côté, on dirait que quelqu'un marche dans le mur.
Quelle folie!
C'est vrai, quelle folie, mais que veux-tu? À force d'ouïr parler de génies mystérieux, je finirai par croire aussi que ce château est hanté.
Rassure-toi, mon frère, ce serait la première fois de ta vie que tu auras eu peur.
Ce sera la dernière. Mais rejoignons la compagnie et tâchons de donner le change aux idées du comte.
L'agitation produite par les événements de la journée était trop vive encore pour que César pût, avant la nuit suivante, réaliser son projet. Il dut donc se résigner à attendre. Cependant, le lendemain matin, au sortir de la messe, le comte dit en souriant à Franz « J'espère qu'aujourd'hui il y aura trêve de prodiges et que notre démon familier nous laissera un peu en repos. » Le vieillard était rentré chez lui avec Franz. Quel fut son étonnement lorsqu'il aperçut au milieu de sa chambre à coucher, sur une table massive, un coffre non moins épais et tout vermoulu. Un parchemin ouvert et posé à plat sur le coffre semblait être là pour donner l'explication du nouveau mystère. Le comte jeta un cri de surprise, tandis que le fidèle serviteur disait avec un signe de croix.
« Nous ne sortions donc plus des miracles? Qu'est-ce que cela, bonté divine ?»«
Tiens, Franz, ce parchemin nous instruira. Lis-moi cela bien vite. »«
Oui, monseigneur. »«
Comte, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Vous avez douté de ma puissance, elle va vous être révélée. » Tandis que vous gémissiez sur votre ruine, vous ignoriez que dans ce château il existait un trésor légué à ses descendants par Sigismond II, l'un de vos aïeux. Reconnaissez que la Providence ne vous avait pas oublié. En son nom, je vous rends ce trésor. Le manuscrit tracé de la propre main de Sigismond m'indiquait le lieu où il avait enfoui ses richesses. Plus tard, je vous donnerai peut-être d'utiles avis. Ils concerneront votre fille, dont vous allez confier imprudemment le bonheur à un inconnu. Prenez garde, seigneur comte, et croyez à l'amitié d'Ariel. »
Dire que cette lettre plongea le vieillard dans un profond étonnement, c'est dire ce qu'on aura tout de suite pensé. Ainsi, le comte, bien qu'il en brûlât de désir, osait à peine ouvrir le coffre, tant il lui semblait que ce mystère était l'œuvre d'une puissance infernale. Il avança la main et dégagea trois charnières qui fermaient le coffre. À peine eut-il levé le couvercle qu'il aperçut une énorme quantité de pièces d'or et d'argent frappées aux millésimes les plus anciens. La vue de ces richesses laissa le noble vieillard assez froid, tandis qu'au contraire le bon Franz laissait éclater sa joie. Le majordome faisait mille rêves de bonheur pour ses chers maîtres. Cependant, le comte, pensif, était préoccupé de la crainte de commettre un péché mortel en profitant de l'assistance d'un être de l'autre monde.
« Qu'importe, dit Franz, s'il vaut mieux que les gens de ce monde-ci. »
« Mais, demanda le comte, avais-tu connaissance du manuscrit dont parle cet Ariel ?»«
Franchement, monseigneur, voilà ce qui m'étonne le plus. Selon toute apparence, le manuscrit a dû être emporté avec beaucoup d'autres livres par votre malheureux fils, lorsque, sous un nom de simple bourgeois, il partit dévoré du besoin de voyage et de science. »
Le comte, essuyant ses yeux mouillés de larmes, dit d'une voix étouffée,
« De l'or, de l'or. Qu'en ferai-je maintenant? Je n'ai plus de fils.
Votre fille vous reste à songer à son bonheur.
C'est vrai. Au moins pourrais-je la doter. Mon Antonia ne portera point l'indigence chez son noble époux. »«
Cet étranger ? » murmura Franz. « Qu'est-ce à dire? Ne te convient-il pas?
C'est à mademoiselle Antonia qu'il ne paraît pas convenir.
Tu crois sans doute qu'elle lui préférait ce jeune homme, ce Ludwig de Lüdebourg ?»
« Oh, j'en suis sûr !»
dit Franz avec feu. Le comte sourit, mais redevenant aussitôt sérieux, il dit « C'est fini, ne pensons plus à Ludwig. Il doit avoir au cœur une blessure incurable. Je l'ai offensé par l'orgueil de mon refus, n'y pensons plus. Pauvre Ludwig.
Quant à toi, Franz, pas un mot sur tout ceci.
Oh, mon cher maître, je garderai un silence inviolable. » Cette même nuit, la tour de l'Ouest devait être témoin d'une scène terrible. L'heure était avancée. Une profonde obscurité enveloppait le château lorsqu'un homme couvert de vêtements d'une teinte sombre et portant une lanterne sourde s'achemina lentement et avec précaution vers la tour. Après avoir ainsi marché à pas comptés, il arriva enfin par un escalier presque en ruine à une large salle.
« C'est ici, » murmura-t-il, et posant sa lanterne sur une petite saillie de pierre, il tira de dessous son manteau un livre qu'il ouvrit à une page marquée d'avance.
« C'est bien ici, » reprit-il. « Relisons les lignes qui indiquent l'emplacement occupé par le coffre. »
Il lut rapidement. Au moment où, satisfait de son examen, il fermait le livre, il aperçut, en dirigeant son regard vers la place où devait être caché le trésor, une espèce de forme humaine, grande, sinistre, enveloppée des plis d'un large manteau brun. Il ne distinguait pas les traits, mais seulement deux yeux fixes et brillants qui dardaient des éclairs. Il frissonna. Mais comme cette figure restait dans une complète immobilité, il crut qu'elle n'était qu'une vision, un rêve de son imagination surexcitée. Il fit quelques pas vers cette espèce de fantôme. Celui-ci étendit alors un bras menaçant comme pour lui défendre d'avancer, et en même temps il dit d'une voix grave et lente « Retire-toi, sacrilège, respecte les dépouilles des morts, retire-toi, malipierie. »
« Par l'enfer !» s'écria l'Italien, chez qui la colère avait ranimé le courage.
« Tu parles donc, tu es vivant, et puisque tu connais si bien mon nom et mes projets, j'espère que tu connaîtras aussi le poids de mon épée. »«
Encore une fois, » reprit le fantôme, « retire-toi, misérable. Tu viens ici comme un voleur, je pourrais bien te traiter comme un assassin. »«
De mieux en mieux, j'espère que tu ne refuseras point de croiser ton fer contre le mien, car je pourrais te traiter comme un espion et un lâche. »
En disant ces mots, Malipieri mit l'épée à la main et s'élança vers l'apparition. Celle-ci fit un soubresaut et s'échappa dans les ténèbres.
« Infâme, infâme !» s'écria l'Italien, aveuglé par la rage. « Tu fuis, après m'avoir insulté. Attends, attends !»
Et il frappait à grands coups tout ce qui était à la portée de son épée. L'acier solide ne faisait qu'ébrécher la pierre des murailles. Au même instant, le bruit d'une cloche retentit. Le mystérieux adversaire de Malipieri agitait la corde de cette cloche de signal qui, en effet, se trouvait à la partie supérieure de la tour. L'Italien frémit, car il comprit que ce tocsin allait mettre sur pied et attirer tous les habitants du château. Comment expliquerait-il sa présence dans la tour à cette heure de nuit? Ce fut donc lui qui, cette fois, chercha à fuir. Mais il rencontra une épée nue qui lui toucha la poitrine sans s'y enfoncer. D'un bond désespéré, César recula, et comprenant la nécessité de se défendre, il engagea une lutte sérieuse. Les deux lames se choquaient, glissaient l'une sur l'autre, portaient des coups ou en paraient. Des deux côtés, l'adresse était égale. Cependant, les dalles des couloirs résonnaient sous les pieds de plusieurs personnes qui accouraient vers la scène du combat. Déjà, les lueurs des torches commençaient à être distinctes. Malépierry redoubla d'ardeur, il serra de près son adversaire, ne s'apercevant pas que ses forces diminuaient sensiblement. Tout à coup, l'épée du marquis, enlevée à sa main par un mouvement habile, alla tomber à 10 pas. L'adversaire baissa son arme, mais Malépierry, s'élançant vers lui avec fureur, dit en se découvrant la poitrine « Frappe-moi, mais que je sache au moins qui tu es !»«
Tu vas le savoir, » répondit tranquillement le vainqueur. Le comte, Franz, tous les serviteurs du château, armés et munis de flambeaux, parurent et jetèrent un cri d'étonnement à la vue de Malépierry. Quant à l'autre combattant, il avait relevé les plis de son manteau pour mieux cacher ses traits.
« Qu'y a-t-il, grand Dieu ?» dit le comte en promenant un regard de stupéfaction sur les acteurs de cette scène. Le marquis, consterné, ne répondit pas. « Qui êtes-vous ? » demanda le comte, se tournant vers l'inconnu. « Votre ami, votre défenseur, Ariel. » À ce nom, les valets s'écartèrent frémissants. Le comte lui-même ne put se défendre d'une certaine émotion. Mais Malépierry, s'attachant à une nouvelle espérance, s'écria « Cet homme en a menti. C'est un voleur que j'avais surpris dans le château et poursuivi jusqu'ici. » « Un voleur ?» répéta l'inconnu. « Il n'y a d'autre larron que toi, Malépierry, toi qui venais en ce lieu à la recherche d'un trésor, sur la foi d'un manuscrit tombé par le crime entre tes mains. Ce manuscrit appartenait à un brave étudiant, mon ami, pour son malheur épris de ta sœur Théodora. Ta sœur, se croyant trahie par son amant, conçut une atroce jalousie. Il lui fallut du sang. Malépierry, tu sais le nom du misérable qui guida le bras des assassins, une nuit, près des rives de l'Arno. Ose nier que ce manuscrit ait appartenu à Ladislas Borner ?»«
Ciel !» s'écria le comte. « Ladislas, mon fils !»«
Votre fils !» répéta l'inconnu qui, se découvrant et laissant voir soudain le visage de Ludwig, pressa les mains du comte. Celui-ci, les yeux pleins de larmes, ne pouvait que murmurer.
« Mon fils, mon pauvre fils !»«
Noble comte !» dit le jeune homme. « Pardonnez-moi d'avoir ravivé votre douleur, mais cette révélation était nécessaire. Malépierry a frappé votre fils, il n'essaye pas de le nier. Et maintenant, pour réparer sa fortune, il voulait vous dépouiller. Il voulait même compléter son crime en épousant Antonia, un ange du ciel.
« Ludwig, dit le comte, reprenant enfin de l'énergie, vous avez agi en digne gentilhomme, vous en serez récompensé. Mon Antonia n'aura pas d'autre époux que son cousin. »
« Oh, mon second père, cher Ludwig !» murmura une douce voix. C'était Antonia qui s'était glissée comme une ombre légère derrière les serviteurs. Ces derniers, sur un signe du comte, entourèrent en le garrottant le marquis de Malépierry.
« Tuez-moi tout de suite !» disait celui-ci avec rage, « mais qu'on ne me traîne pas devant un tribunal !»
Cependant le comte avait paru réfléchir. « Écoutez, » dit le vieillard d'un accent ferme et grave, « écoutez. » Vous m'avez privé d'un bien précieux, de mon fils. Vous avez détruit toutes mes espérances de jouer en ce monde. Vous avez anéanti ma race. J'ai le droit de vous haïr et je vous hais. Mais le devoir de l'hospitalité m'oblige à vous rendre votre liberté. Vous êtes mon ennemi, mais vous êtes mon hôte. Partez immédiatement avec votre sœur. Plus tard, peut-être, vous poursuivrai-je en justice. En attendant, éloignez-vous.
Point de grâce, s'écria Malépierry. « Je n'accepte rien de mes ennemis. »
Ludwig intervint en disant « La parole du comte doit seule être entendue. Franz, veillez à ce que le marquis et sa sœur soient conduits sous bonne escorte à Reisenach par le souterrain qui mène au village. »«
Bonté céleste !» dit le comte. « Ce souterrain existe donc encore ? Je le croyais comblé. »«
C'est sans doute par là que venait maître Ariel ?»«
Précisément. Des couloirs pratiqués dans l'épaisseur des murailles et connus seulement de Franz. » me permettait de circuler, d'entendre, d'observer.
« Ah, mon cousin, » dit Antonia, « comme vous nous avez trompés. » On entraîna Malépierry. Ludwig alors respira. La main de la jeune fille rencontra la sienne, et ses douces paroles s'échangèrent.
« Mon Antonia, mon Ariel. »
Ainsi s'achève Antonia, histoire allemande, par Alfred des Essarts.